Et bonjour Jérôme.
Bonjour à tous, amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, et bienvenue dans ce quiz biblique vendredi. Voilà, vous êtes les bienvenus pour participer à ce jeu hebdomadaire, quiz biblique. Alors évidemment, ce jeu n'a d'intérêt que s'il y a des participants. Participants, c'est ceux qui sont à l'écoute, tant vos appels pour ces petites questions bibliques. Voilà, et puis aussi une question, je crois, au milieu, la question qui n'a rien à voir. Hein. Maintenant, ça devient une tradition. Tradition toute nouvelle, hein. La question qui n'a rien à voir au milieu de ce quiz biblique. Je crois que nous avons quelqu'un, Sandrine.
Oui, Georges est venu nous rejoindre. Bonjour, merci d'être là.
Oui, bonjour.
Bonjour, Georges.
Bonjour,
Jérôme.
Jérôme.
Alors, Georges, vous nous appelez de quel endroit?
Tourcoing.
Tourcoing, dans le nord.
Oui, tout en haut, là.
Tout en haut, pas loin de la Belgique. Eh
Ah,
bien,
je suis à 300 mètres.
300 mètres, voilà, c'est vraiment pas loin. On peut aller chercher le pain.
Oui, on prend de l'essence.
Et l'essence, qui est moins chère. Voilà, ben Georges, bienvenue. On va commencer ce quiz biblique avec vous, Georges, en attendant que, et en invitant chaleureusement les auditeurs qui écoutent à ne pas hésiter à se joindre à vous, Georges, pour venir jouer à plusieurs, à deux, trois, quatre même, si on veut. Alors, Georges, première question, vous êtes prêt?
Oui.
On y go. Alors, cette fois, on va dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, on va parler de l'apôtre Philippe. Et l'apôtre
Oui.
Philippe a baptisé un Éthiopien qu'il rencontre sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. Alors, Georges, question simple, quelle était la particularité de cet Éthiopien? Trois possibilités. La première, il était chauve. La deuxième, il était eunuque. La troisième, il était très gros.
Qui était eunuque.
Et oui, Georges, c'est une bonne réponse. Il était eunuque. Et on peut vérifier ça donc au chapitre 8 dans les Actes, à partir du verset 26, hein, ce très très beau passage avec l'eunuque éthiopien. Alors il était peut-être un peu gros, on ne sait pas en fait hein, pour le reste, mais en tout cas c'est sûr, c'est dans le texte, il était eunuque. Eh bien Georges, on va poursuivre avec la question suivante,
Oui.
qui est d'ailleurs toujours liée au même récit. On est toujours dans ce même récit, avant que Philippe ne s'approche de cet éthiopien. L'Éthiopien qui est d'ailleurs assis dans son char, il était en train, l'Éthiopien, de lire le livre d'un grand prophète. Lequel? Quel prophète lisait-il avant que Philippe n'approche de lui? Isaïe, Jérémie ou Ézéchiel?
Vous dites les trucs, j'aurais dit Isaïe. Donc je vais dire Isaïe, mais sans certitude.
Ah ben c'est la bonne réponse, Georges.
Ouais.
Excellente réponse, c'est Isaïe. Là, cette fois, on est au verset 30, hein, du chapitre 8. Alors, c'est intéressant de noter que Philippe l'entend, car l'Éthiopien lisait à haute voix. Alors, ce n'est pas dans le texte, mais lire à haute voix, c'était la tradition, l'habitude chez les anciens. Et voilà le passage que lisait l'Éthiopien en question. Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera? Car elle est enlevée de la terre sa vie. Isaïe, c'est le chapitre 53, verset 7-8. Voilà ce que lisait l'Éthiopien quand Philippe approche. Et je crois, Georges, donc déjà deux bonnes réponses. Il y a une personne
Voilà, il y a
qui se joue.
Céline qui nous rejoint. Bonjour Céline.
Oui, bonjour Sandrine.
Bonjour Céline.
Bonjour Jérôme.
Bonjour. Alors Céline, vous nous appelez d'où?
Du Sundgau, le sud de l'Alsace.
Dans le sud de l'Alsace. Très bien, mais écoutez, c'est super. On a commencé donc avec Georges, notamment ces deux questions sur la rencontre entre l'apôtre Philippe et l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien. Alors,
Oui.
la question suivante, on va la poser à Céline. Est-ce que vous êtes prête?
Je prête, mais je suis pas très forte, hein.
Oh, alors, c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est de participer. Et à chaque fois, je vous donne donc trois, si vous connaissez le principe, hein, trois possibilités de réponse.
Oui.
Alors, lors de quel récit dans l'Évangile le Christ se met-il à tracer des traits sur le sol? Dans quel récit le Christ se met-il à tracer des traits sur le sol? Trois possibilités donc, Céline. Lors du récit de la multiplication des pains, lors du récit de l'agonie au jardin des Oliviers, ou bien lors du récit de la femme adultère.
Je crois bien que c'est la femme adultère.
Et c'est une très bonne réponse, Céline.
Oui.
Alors, c'est un très beau passage, très beau récit de la femme adultère. Alors, j'ai d'ailleurs une belle interprétation d'un anthropologue chrétien, exégète aussi, qui dit que l'important, ce n'est pas ce que trace Jésus sur le sol, mais c'est la signification de ce geste. Un temps de silence qui lui permet de ne pas donner prise au regard des accusateurs qui sont prêts à commettre la violence. Car le regard des accusateurs, hein, ceux qui veulent lapider cette femme, le regard des accusateurs est déjà chargé de violence, et n'importe quel regard en vis-à-vis, y compris celui du Christ, pourrait être interprété comme une provocation, puisqu'ils sont déjà dans la violence. Et alors ce n'est pas seulement la femme qui pourrait être victime de la violence, mais celui aussi qui se tient à ses côtés, en l'occurrence le Christ. Donc il s'agit là de la part du Christ, de ce geste de se pencher et d'écrire sur le sol, d'un premier temps de désamorçage de la violence. Désamorçage de la violence avant le trait final qui va mettre fin définitivement aux représailles. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà, c'est un sans faute pour Georges et Céline pour l'instant. Et la question suivante, eh bien, elle est pour Georges.
Oui.
Alors Jean, chaque fois, il faut compléter une phrase qui est tirée du livre de l'Ecclésiaste. Oui, l'Ancien Testament, c'est toujours un peu plus compliqué. Un chien vivant vaut mieux... Alors c'est ça qu'il faut compléter. Un chien vivant vaut mieux, trois possibilités, Georges, qu'un âne agonisant, qu'un homme enseveli ou qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un âne agonisant, qu'un homme enseveli ou qu'un lion mort.
Je dirais qu'un homme enseveli sans certitude.
Un homme enseveli pour Georges. Céline ?
Ah, je ne sais pas, absolument pas. Je dirais la première qu'un âne...
Agonisant.
Agonisant, non ?
Eh bien, c'est la troisième. C'est un lion mort. Ah. C'est un lion... Alors, elle n'est pas facile, hein, je reconnais, là, il faut aller la trouver, celle-là. Mais voilà, la référence, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 4, je cite le passage. « Pour tous les vivants, il y a une chose certaine, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. » Voilà, ça c'est tiré de l'Ecclésiaste. Alors, il faut savoir que le chien aussi était considéré comme un animal assez méprisable, hein, à l'époque. Même, même si aujourd'hui, le toutou, c'est un tout. Oh, mon toutou. Je donnerai tout pour mon toutou. Mais non, à l'époque, c'était pas pareil. Voilà, on continue. On continue avec Céline.
Oui.
Voilà. Alors, cette fois, on retourne dans les Actes des Apôtres, Céline. Il y a deux personnes dans les Actes des Apôtres, deux personnes qui s'appellent Ananias. Alors, ce ne sont pas les mêmes, mais il y a bien deux personnes avec ce même nom, Ananias, qui sont mentionnées dans les Actes. Alors, le premier, Ananias, il va mentir au sujet du don qu'il fait à l'Église, le don qu'il fait aux apôtres. Mais qui est l'autre, Ananias, mentionné toujours dans le même livre des Actes des Apôtres ? Qui est donc ce second Ananias ? Trois possibilités, Céline. S'agit-il d'un des sept diacres qui va être nommé pour le service, ou bien d'un disciple du Christ qui va redonner la vue à Saul de Tarse, ou bien d'un compagnon de Paul dans ses missions? Qui est donc cet autre Ananias, sachant que le premier, il fait partie de... C'est un couple d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas, d'un couple qui va vouloir faire un don aux premiers amants, première église, mais ils vont garder une partie de l'argent. Mais le second Ananias... Lui, soit c'est un des diacres nommés pour le service, un disciple du Christ, celui qui va redonner la vue à Saul de Tarse, ou bien un compagnon de Paul dans ses missions. Céline, est-ce que vous avez une idée ?
Oh là là, je ne sais pas du tout.
Est-ce que
Alors, je ne sais pas, je dirais un compagnon de Paul.
Compagnon de Paul, est-ce que Georges, vous êtes d'accord ?
Aujourd'hui, un diacre. Mais
un diacre, eh bien, c'est ni l'un ni l'autre, c'est bien un disciple du Christ, c'est celui qui va redonner la vue. Parce que si vous vous souvenez du passage de la conversion de Saint Paul, Saint Paul va devenir aveugle.
Oui.
Et il va être confronté donc à cet Ananias qui était juif, qui était un disciple de Damas, qui a dû d'ailleurs participer à la fondation de l'église à Damas. Et on sait que Paul a été aveuglé par l'éclat de l'apparition sur le chemin de Damas. Oui. Et c'est Ananias ou Anani, selon les Bibles, qui va lui redonner la vue. Voilà ce passage. Eh bien, nous poursuivons avec Georges.
Oui, j'écoute.
Alors, Georges, chez quel... On reste dans l'Ancien Testament, hein, Georges. chez quel prophète trouve-t-on la parabole du potier ? ou dites la parabole du vase du potier. Trois possibilités, Georges, Jérémie, Osée ou Amos.
Je crois que c'est Osée.
Osée pour Georges. Est-ce que Céline, vous avez une idée?
Moi, je dirais Amos.
Amos, eh bien, c'est le premier, Jérémie. C'est Jérémie, chapitre 18. Alors c'est vrai, bon, c'est pas l'Ancien Testament, hein, je suis d'accord avec vous, c'est jamais facile. Alors c'est cité dans le livre de Jérémie, cette parabole du potier, elle parle des péchés de l'humain et de l'application divine à construire son peuple. Alors on sait que dans le texte, hein, par un geste malheureux, le potier parfois il ratait son objet qu'il confectionnait avec de l'argile, et le Seigneur annonce qu'il peut agir avec les gens d'Israël, à la manière d'un potier qui façonne ou corrige. Et le vase qui représente l'être humain. Dieu, comme il a façonné Adam, façonne les humains comme un vase. Il pétrit l'argile et le modèle selon sa parole et sa sagesse. Voilà pour cette parabole du potier, parabole de l'Ancien Testament, hein, et non pas du Nouveau. Eh bien, je rappelle en même temps que nous sommes toujours dans le quiz biblique avec Sandrine, tous les animaux, l'agneau en premier, parce que l'agneau est le roi des animaux, hein, chez Sandrine. Il y en a plein d'autres. Je vais entendre un extrait. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se joindre à Céline, à Georges, pour venir jouer à ce quiz biblique. Et on continue, question suivante qu'on va poser à Céline. Est-ce que vous êtes prête?
Oui, tout est.
Alors, nous restons dans les Actes des Apôtres. Le Seigneur dit qu'il s'est choisi un instrument pour répondre de son nom devant les nations. De qui parle le Seigneur ? Dieu dit qu'il s'est choisi un instrument pour répondre de son nom devant les nations. De qui parle le Seigneur ? Trois possibilités, Céline. De Pierre, de Saul ou de Jean ?
De Pierre.
De Pierre pour Céline. Est-ce que Georges, vous partagez ?
Moi, je vous dis Jean.
Jean ? Ah ben c'est Saul. C'est pas mal, hein, quand je vous pose la question à tous les deux. C'est toujours l'autre.
Désolé.
Ça n'est pas désolé. C'est un jeu, on participe. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à participer. On n'est pas là pour gagner, avoir la bonne réponse à chaque fois. Et effectivement, c'est l'apôtre Paul. Hein, et la référence, on la trouve dans le chapitre 9, hein, des Actes, à partir du verset 15. Voilà, l'instrument que s'est choisi le Seigneur, c'est Paul qui va effectivement évangéliser partout, en masse, chez les païens. Et nous continuons donc avec Georges. Georges, alors, Georges est abonné au prophète. Alors Georges, quel prophète a été invité par le Seigneur, invité, un peu convié fortement, hein, par le Seigneur à épouser une femme infidèle en signe de l'infidélité du peuple d'Israël? Lequel de ces prophètes a été invité par le Seigneur à épouser une femme infidèle en signe, symbole de l'infidélité du peuple d'Israël lui-même? S'agit-il d'Osée, de Joël ou d'Amos? Pas facile, celle-là.
Oui.
C'est une bonne réponse.
Bravo.
Voilà. Que le mariage soit heureux ou malheureux, hein, il y a toujours la même musique. Oui, c'est dans un très très beau passage, un très très beau livre, hein, le prophète Osée. C'est dès le début, hein, le chapitre 1, dès le verset 2, la vie conjugale d'Osée qui va devenir le symbole prophétique de la relation entre Dieu et son peuple. Alors il y est présenté comme un mari qui découvre avec douleur et détresse l'infidélité de sa femme, considéré dès lors dans le texte comme une prostituée. Et le peuple est comparé à une épouse infidèle. Pourquoi ? Parce qu'il s'est voué au culte des idoles. Dieu, en revanche, est l'époux fidèle et surtout unique qui parle au cœur du peuple et s'emploie en l'éprouvant à le reconquérir, prêt à pardonner au moindre signe de repentir. Il faut relire ce beau livre du prophète Osée. Eh bien, nous sommes toujours dans le quiz biblique, chers amis auditeurs, et nous poursuivons avec Céline pour la question suivante.
Oui.
Alors Céline, on retourne dans les Actes. Alors c'est les Actes pour Céline, et les prophètes pour Georges. Alors quel personnage mentionné dans les Actes des Apôtres va se porter garant pour Paul afin de l'introduire auprès des disciples à Jérusalem. Alors, il faut pouvoir resituer le contexte, hein, c'est-à-dire que saint Paul, en fait, vient d'être converti. On a vu qu'il était devenu aveugle. Il retrouve la vue grâce à ce chrétien juif de Damas, Ananias. Et puis finalement, ben, Paul, il va bien falloir qu'il rencontre les colonnes de Jérusalem, les apôtres de Jérusalem. Seulement, il est très très mal vu, Paul. Il est très mal vu parce que on ne sait pas forcément qu'il s'est converti. On sait par contre qu'il persécutait tous les chrétiens. Alors, qui va aider finalement Saul ou Paul à rencontrer les disciples à Jérusalem? Trois possibilités, Céline, Jean-Marc,
oui.
Corneille ou Barnabas, qui est donc celui qui va aider Paul, l'introduire en tout cas auprès des disciples à Jérusalem. Jean-Marc, Corneille ou Barnabas?
Jean-Marc. Je ne sais pas. Aucune idée, alors je ne sais absolument pas.
Et Georges, est-ce que vous avez une idée?
Moi, le premier nom qui m'est venu, c'est Barnabas, mais sans conviction.
Et en tout cas, c'est une bonne réponse. C'est bien Barnabas. Oui. Et oui, c'est Barnabas dans les Actes.
Ça me disait quelque chose, mais...
Au chapitre, alors qu'on dit, Barnabé aussi, hein, Barnabas, Barnabé, c'est au chapitre 9 dans les Actes, à partir du verset 26. Alors Barnabas, qui est-il? Enfin, c'est un juif, lévite, lié à l'île de Chypre, et il va tenir une place importante, hein, dans les Actes des apôtres, puisque d'une part, on vient de le dire, il est celui qui va introduire saint Paul auprès des apôtres à Jérusalem, et puis plus tard d'ailleurs, il va introduire aussi auprès des chrétiens d'Antioche, mais il a également été le premier compagnon de voyage de saint Paul, dont il est un peu le chef de mission d'ailleurs. Donc ce Barnabas, il est important, on pourrait le considérer comme un apôtre d'ailleurs.
Hein. Oui.
Voilà pour ce Barnabas. Et on poursuit donc question suivante avec Georges.
Oui.
Georges, on reste dans les Actes. Pierre va ressusciter une chrétienne du nom de Tabitha, qui est également appelé Dorcas. Alors Dorcas, c'est son nom grec. Tabitha, c'est le nom araméen. Alors, dans quelle ville habitait-elle, cette femme, que Pierre va ressusciter, ce miracle de Pierre, qui va ressusciter Tabitha, dans quelle ville habitait-elle? Trois possibilités, Césarée, Jopé ou Lydda.
Je pense que c'est à Césarée.
Césarée pour Georges. Céline, est-ce que vous avez une idée?
Moi, je dirais Césarée aussi.
Césarée pour tous les deux. Eh bien, c'est Jopé. C'est la deuxième réponse. Acte 9, à partir du verset 36. Bon, ce n'est pas une question évidente, mais en tout cas, on sait que Pierre se déplace partout. Hein. Il évangélise à tout va, hein, il se déplace. J'ai cité Lydda comme ville. Lydda, c'est la ville où se trouvait Pierre au moment où Tabitha va mourir. Et Lydda, c'est pas très loin de Jopé, à peu près 20 kilomètres. Et donc, on envoie tout de suite des gens à Lydda pour aller chercher Pierre. Et Pierre donc va donc se rendre finalement à Jopé, qu'on appelle aussi Jaffa, hein, en Israël aujourd'hui. Et c'est un port, bien sûr, sur la Méditerranée, hein, c'est sur la mer. Voilà, c'est le lieu où Tabitha va être ressuscitée par l'apôtre Pierre. Je vais d'abord poser la question qui n'a rien à voir. Vous savez que maintenant, il y a une question qui n'a rien à voir. Et je vais vous la poser à tous les deux. Céline et Georges, vous êtes prêts?
Oui.
Alors, quelle expression utilise-t-on pour indiquer une disproportion entre un projet annoncé comme très important, ou le grand projet, et l'inconsistance ou le ridicule du résultat? Vous avez trois possibilités. Le lion a chuchoté dans la savane. Le pêcheur a ramené une crevette. Ou la montagne a accouché d'une souris. Quelle est cette expression qu'on utilise pour dire qu'il y a un projet très important et puis finalement, au niveau du résultat, quand il arrive à son terme, le résultat est tout petit?
Je pense que c'est la troisième.
La montagne a accouché d'une souris.
Et oui, c'est la montagne
qui
a accouché.
Ça, ouais.
Oui, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Voilà, disproportion entre le projet annoncé comme important et le résultat tout à fait ridicule. Voilà. La montagne a accouché d'une souris. C'est une bonne réponse pour tous les deux, Céline et Georges. Alors cette question, elle est pour Céline. Et on va rester dans la suite du récit de la question. Alors pas la question qui... on ne sait pas d'où elle vient, hein, mais la question d'avant, dans le récit de la guérison de Tabitha. Et Pierre, du coup, va demeurer assez longtemps à Jopé, cette ville. Hein, Jopé qui est sur le port, sur la Méditerranée. Et il va rester à Jopé chez un certain Simon. Et le texte, dans les Actes des Apôtres, nous précise le métier de Simon. Justement, alors quel était son métier? Alors Céline, trois possibilités. Pêcheur, tailleur de pierre ou tanneur? Pêcheur, tailleur de pierre.
Pêcheur.
Pêcheur pour Céline. Georges, est-ce que vous avez la même idée?
Oui, j'aurais dit tanneur. J'aurais dit tanneur.
Eh bien, c'est une bonne réponse, Georges, c'est tanneur. Alors, on trouve ça dans le chapitre 9 des Actes, au verset 43. Alors, on dit aussi corroyeur. Alors, dans le texte, dans la Bible, on trouve souvent le mot corroyeur, qui veut dire la même chose, tanneur, qui travaille donc les peaux naturelles pour les transformer. Voilà le métier de celui qui a reçu. On dit bien dans le texte, d'ailleurs, que Pierre va rester un certain temps, donc voilà, chez Simon. Voilà, bon, il faut le savoir, tout ça. Moi, je découvre aussi en le faisant, le quiz biblique. Voilà. Et la question suivante pour Georges.
Oui.
Il y a des cigales à Tourcoing?
Non, pas en ce moment. Oui, c'est beau, mais quand même.
Il faut quand même pas pousser, hein. Elle remonte pas si haut. Alors, la question pour Georges. Il faut compléter une phrase. C'est une phrase de Saint Paul. Alors, car la sagesse de ce monde est, car la sagesse de ce monde est, et Georges, trois possibilités, grande devant Dieu, folie devant Dieu, mystérieuse devant Dieu.
Grande devant Dieu.
Grande devant Dieu pour Georges, la sagesse de ce monde. Céline, vous êtes d'accord?
Folie devant Dieu.
Ah, Céline, c'est la bonne réponse donnée par Céline.
Ah.
C'est la folie. Et oui, première vérification dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Et oui, où saint Paul va souvent comparer la sagesse des sages, les sages de ce monde, comme une folie pour Dieu. Voilà. Donc, bonne réponse de Céline. Céline, pour qui est la question suivante? Vous êtes prête?
Oui.
Alors,
oui.
Dans quelle épître catholique du Nouveau Testament? Laquelle de ces épîtres, hein, vous savez qu'il y en a plusieurs, bon, il y a les épîtres de saint Paul, mais aussi bien sûr Jude, Jean, Jacques, etc. Dans quelle épître est écrite donc pour la dame élue et ses enfants? Il y a une épître qui commence comme ça, écrite pour la dame élue et ses enfants. Alors de quelle épître s'agit-il? Trois possibilités, Céline. La seconde épître de saint Jean, l'épître de saint Jude ou la première épître de saint Pierre? Laquelle de ces épîtres, ces trois épîtres, est-elle écrite pour la dame élue et ses enfants?
Oula, je ne sais pas si j'ai une fois entendu ça.
Oui, moi, en plus, je l'ai découvert en faisant le quiz. Ça, c'est pas possible, il y avait ça dans le texte.
Je ne dis absolument rien, mais alors...
c'est extraordinaire, il y a une épître qui commence comme ça, elle est écrite pour la dame élue et ses enfants.
Alors, et vous avez dit, répétez-moi voir les alors, trois réponses.
Alors, soit seconde épître de saint Jean, soit Saint Jude, soit premier épître de Saint Pierre. Vous savez que ces épîtres, souvent, on mentionne...
Je ne sais pas. Je dirais Saint Pierre, mais je ne sais absolument pas.
Alors vous savez que sous ces épîtres, on mentionne souvent un destinataire. On trouve parfois Timothée.
Oui.
Voilà, on écrit
voilà.
Timothée.
Oui, oui, c'est vrai.
Et Georges, vous diriez quoi?
Bon, je ne veux pas dire Pierre, je vais dire Jude.
Jude, bon, bah, c'était Saint Jean, la première. La seconde épître de Saint Jean. Et deuxième épître de saint Jean qui commence ainsi. Alors ça commence l'ancien, à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la lumière de la vérité. Alors en tout cas l'enfant celui-là il est tout petit, hein Sandrine. Et donc la dame élue ça désigne qui en fait? La dame élue ça désigne en fait l'église, une église locale. Alors, les historiens ne savent pas de quelle église saint Jean parlait, mais en tout cas, ça désigne une église locale. Et elle est élue, pourquoi? Parce qu'elle est composée de croyants, qui sont les héritiers et l'élu. Donc, la dame élue, c'est l'église, et les enfants, ben, c'est les fidèles.
Mm-hmm.
Voilà. Question suivante pour Georges.
Oui.
Alors, attendez, parce que là, on traverse un secteur très humide, au nord-est de l'Amazonie. On est sur une pirogue avec Sandrine. Alors, c'est pas facile de faire le quiz biblique tout en essayant d'éviter les morceaux de bois qui flottent à la surface, voire les alligators. Alors, Georges, est-ce que vous êtes prêt?
Oui.
Complétez cette déclaration du Christ. Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, et là il faut compléter, trois possibilités, Georges, n'a même pas une maison, erre de ville en ville, ou troisième possibilité, n'a pas opposé la tête. Quelle est donc la formule qui complète cette phrase, les renards en détail.
Je dirais la deuxième.
Erre de ville en ville.
Oui.
Pour Georges, est-ce que Céline, vous diriez la même chose?
N'a pas posé sa tête.
Eh bien, c'est Céline qui a la réponse. C'est une bonne réponse, Céline. Et on trouve ce passage dans Matthieu, chapitre 8, verset 20. Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Voilà, et on continue avec Céline pour la question suivante.
Oui.
Dans quel livre du Nouveau Testament trouve-t-on l'image de la mort montée sur un cheval pâle? Trois possibilités, Céline. L'évangile de Jean, l'épître de Saint-Jacques ou le livre de l'Apocalypse. Dans lequel de ces trois livres trouve-t-on cette image de la mort montée sur un cheval pâle? Ou un cheval blême, selon les traductions.
Le livre de l'Apocalypse.
Et oui, Céline, c'est une bonne réponse.
Bravo.
Vous pouvez aller voir dans Apocalypse 6, chapitre 6, verset 8. On continue, question suivante avec Georges.
Oui.
Alors Georges, lequel des évangiles suivants accorde une place plus importante à Thomas, le disciple, dans ses déclarations comme dans ses actes? Il faut savoir que Thomas, il y a un évangile sur les quatre qui en parle plus. Les autres, il est mentionné dans la liste des disciples, voilà, c'est tout. Mais il n'apparaît nulle part ailleurs dans aucun récit. Il y a un des évangélistes qui va quand même mentionner des épisodes avec Thomas. S'agit-il de Matthieu, de Luc ou de Jean? Et c'était la Saint-Thomas aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis cette question, bien sûr.
Bah, je dirais Luc.
Luc pour Georges. Céline?
Et pour moi, je pensais Jean.
Et oui, Céline, c'est Jean. C'est l'évangile de Jean, le quatrième évangile. Dans les évangiles qu'on dit... Les évangiles qu'on dit synoptiques, hein, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, Thomas n'est pas mentionné autrement que dans la liste des apôtres. En revanche, dans l'évangile de Jean, on lui a donné une certaine importance. Notamment, il se révèle, Thomas, fougueux et généreux lorsqu'il réagit aux paroles de Jésus qui annonce sa mort. « Allons, nous aussi, et nous mourrons avec lui. » Déclaration de Thomas, Jean chapitre 11. On perçoit aussi un esprit critique chez Thomas dans le dialogue qui suit le récit de la scène. À Jésus qui dit « Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin », Thomas répond avec vivacité « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Mais évidemment, il est surtout connu pour son incrédulité, hein, qui lui donne une place unique dans le récit des apparitions de Jésus. Puisque dans le même évangile de Jean, Thomas qui refuse de croire avant d'avoir vu les marques de la crucifixion. Cette incrédulité, d'ailleurs, lui valut le surnom de Thomas le sceptique. Mais alors, c'est intéressant que Thomas, il existe vraiment dans Jean, hein, par ces trois passages qu'on vient de citer. Alors que dans les trois autres évangiles, il est juste cité dans la liste des disciples. Voilà. Une dernière question que je vais poser, donc que je vous pose à tous les deux, Céline et Georges.
Oui.
Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Alors, dans l'évangile de Matthieu, cette fois... Alors, pendant le procès qui est intenté contre Jésus, la femme de Pilate intervient auprès de son mari, le fameux Ponce Pilate. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Donc, dans l'évangile de Matthieu, pendant le procès intenté contre Jésus, la femme de Pilate intervient auprès de son mari. Que lui dit-elle? Trois possibilités. Elle lui demande de le condamner. Deuxième possibilité, elle lui demande de l'innocenter. Troisième possibilité, elle lui demande de ne pas se mêler de cette affaire. Que dit donc la femme de Pilate à son mari pendant que Jésus est en procès accusé?
Elle dirait de ne pas se mêler
de ses affaires.
Amen, alléluia, la bonne réponse. Tous les deux, vous avez la bonne réponse. Et oui, c'est la troisième. Elle lui demande de ne pas se mêler de cette affaire. On est dans Matthieu, chapitre 27, verset 19. Pendant que Pilate siégeait sur l'estrade, c'est ça le passage, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. » Et oui, elle a fait un rêve.
Ah.
Et oui. D'ailleurs, j'ai relevé la note de bas de page dans la traduction œcuménique de la Bible. Il y avait une petite note en bas qui indique qu'il ne faut pas voir en la femme de Pilate une chrétienne avant la lettre. Elle est tourmentée par un rêve qui la laisse un petit peu perplexe. Elle ne tient pas Jésus pour un juste au sens juif, c'est-à-dire fidèle à la volonté de Dieu, mais au sens grec d'homme de bien. Ça, c'était la note de bas de page, intéressante à remarquer. En tout cas, c'est une très bonne réponse tous les deux pour cette question finale. Et puis aussi, un grand, grand merci à tous les deux, Georges et Céline, d'avoir bien voulu participer à ce quiz biblique d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à rejouer, puisque le quiz biblique continue hein, tout ce mois de juillet, tous les vendredis à 17h. Merci beaucoup, Georges. Oui. Merci beaucoup, Céline.
Merci beaucoup aussi pour votre merci jeu aussi. Que vous faites toutes les semaines.
Merci.
Merci beaucoup.
Ouais. Au revoir, à très bientôt.
Au revoir, Jérôme.
Au revoir.
Au revoir, Georges. Au revoir, Céline. Merci.
Et merci, Sandrine.
Et merci, Jérôme.
Et à vendredi prochain.
Avec choix.